Je ne regrette rien, une série en 6 épisodes sur la vie, l'œuvre et la carrière d'Édith Piaf. C'est le 10 octobre 1963 qu'est décédée celle que l'on reconnaît encore après 60 ans comme la plus grande chanteuse française, Édith Piaf. Cette femme d'exception a grandement contribué à entretenir mythe et mystère autour de certains événements de sa vie, en les embellissant parfois, les racontant toujours à son avantage. Ainsi en est-il des faits entourant sa naissance, fille d'une chanteuse et d'un saltimbanque, de son enfance, de son adolescence, de ses débuts de chanteuse de rue, jusqu'à ce qu'on la découvre.
Je me fous du passé.
Premier épisode.
Je ne regrette rien pour mille raisons, parce que maintenant, ça a l'air peut-être drôle ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de renaître, de... Oui, comme si je venais de naître, je vois la vie différemment, l'amour différemment, l'amitié différemment. Et je me dis que tout sert à quelque chose, qu'il y a une raison et qu'il faut passer par où l'on passe pour faire quelque chose d'important. Enfin, ce que j'estime, moi, d'important dans ma vie.
C'était un extrait de l'album Tête à tête, enregistré au début des années 60. Sur un immeuble situé au 72 rue de Belleville dans le quartier Ménilmontant à Paris, sur la façade de l'édifice, une plaque dévoilée en 1966, 3 ans après sa mort, devant une foule de curieux et d'admirateurs en présence de Maurice Chevalier, ami personnel, et de Théo Sarapo, le jeune veuf. On peut y lire « Sur les marches de cette maison naquit le 19 décembre 1915, dans le plus grand dénuement, Édith Piaf ». Dont la voix, plus tard, devait bouleverser le monde. Piaf aimait entretenir cette légende d'une naissance de misère qu'elle raconte dans un livre de souvenirs intitulé « Au bal de la chance ». Il n'en est rien. La recherche montre qu'elle est née à l'aube du 19 décembre 1915 à la maternité de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement. Ses parents, Annette Maillard et Louis Gassion, sont mariés depuis le 4 septembre 1914. La mère n'a que 17 ans et est déclarée artiste lyrique alors que le père, âgé de 34 ans, engagé dans l'armée à l'époque, est un artiste acrobate ambulant. La légende veut également que tôt après la naissance de la fillette, la mère l'abandonne pour reprendre sa carrière de chanteuse. Quand Piaf écrit dans ses mémoires que sa mère l'a abandonné peu après sa naissance, que son père l'a confié à la garde de ses deux grands-mères, lui-même appelé sous les drapeaux, elle fait porter l'odieux de l'abandon sur sa mère, sans jamais juger son père, qui, à l'époque, contrairement à ce qui a été dit, avait déjà quitté l'armée et repris sa vie de saltimbanque. Sous le nom d'emprunt de Lynn Marsa, la mère a repris sa vie d'artiste, en effet. Elle interprète avec un certain talent les succès de l'époque d'une voix assez proche de celle qui fera le succès de sa fille, Lynn Marsa.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean. Mais il m'a suffi qu'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Parlons croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Pour parler chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais.
En août 1918, à Marseille, Annetta donne naissance à un garçon prénommé Herbert. aussitôt confié à l'assistance sociale. Louis Gassion en reconnaît la paternité, mais rien n'est moins sûr. Cette même année 1918, Gassion retire la fillette de la garde de sa grand-mère maternelle pour la conduire chez sa mère à lui, à Bernay, en Normandie. Cette grand-mère, Léontine, qui n'a pas la fibre maternelle très aiguisée, travaille dans une maison dite de « tolérance », un lupanar où 5 ou 6 filles y reçoivent quotidiennement leurs clients. Laisser une enfant de 3 ans chez une femme peu aimante qui a la réprimande facile, entourée de filles souvent tristes et désabusées, n'offrait rien de bon pour l'épanouissement d'une enfant qui, pourtant, parle d'années heureuses, malgré la kératite qui la gêne pendant des mois et dont elle attribuera la guérison à un pèlerinage des filles de la maison à Lisieux. Edith a 7 ans quand son père revient la chercher pour qu'elle l'accompagne dans ses vagabondages. La présence d'une enfant lors des spectacles ne peut que servir à attirer la pitié des foules. Sur cette période d'une dizaine d'années, la documentation est mince. Il faut se fier, avec prudence, au récit qu'en fait Edith. Dans ses mémoires, elle raconte qu'elle devait entretenir la caravane de son père. « Je faisais le ménage, je lavais la vaisselle, ma journée commençait très tôt et elle était dure, mais cette vie itinérante, avec ses horizons toujours renouvelés, me plaisait », écrit-elle. Louis Gassion se présente avec sa fille sur des places animées, marché public, parvis d'église, fait son numéro et la petite passe la quête. Parfois, pour susciter la générosité, le père annonce que la fillette fera aussi un numéro. Une photo, format carte postale, vendue lors des spectacles du père, montre la petite chanteuse d'environ 8 ou 9 ans, posant pour un photographe, avec en sous-titre « Miss Edith, phénomène vocal ». Un signe évident que la présence de l'enfant dans le spectacle du père est rentable. Après que fut officialisé le divorce des parents en 1929, Louis Gassion, au bord de la cinquantaine, se remet en ménage avec une femme de 20 ans à peine, qui lui donne une fille, prénommée Denise. Après le demi-frère, une demi-sœur. Voilà la famille d'Edith. Au début des années 1930, Edith a 16 ans. Elle chante pour quelques pièces de monnaie au coin des rues ou dans les cours. Des airs connus des chanteuses du temps, telles la Java Bleue ou encore ce grand succès de Lucienne Delisle, Sous les ponts de Paris.
À Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris.
Edith fait bientôt quelques rencontres qui vont changer le cours de sa vie. Louis Dupont, un beau garçon livreur, probablement croisé dans un café. Ils se plaisent aussitôt. Elle, qui désire quitter l'appartement où elle vit avec son père, la belle-mère et le bébé, y voit l'occasion de se mettre en ménage avec le garçon. Louis, un peu contrôlant, n'aime pas qu'Edith chante dans les rues et l'oblige à se trouver un autre emploi qu'elle n'apprécie guère. Alors qu'elle est enceinte, le jeune couple se sépare et elle retourne chanter dans la rue. L'enfant, une fille, naît le 11 février 1933 à la même maternité où avait vu le jour Edith 17 années plus tôt. Louis reconnaîtra sa paternité et l'enfant est nommé Marcel Dupont. La mère, qui en a d'abord eu la garde, traîne la petite avec elle et s'en sert pour susciter la générosité du public, comme son père l'avait fait avec elle, pour améliorer ses recettes. Mais Louis Dupont a tôt fait de reprendre sa fille pour lui assurer une vie plus stable. L'enfant est morte le 7 juillet 1935 d'une méningite tuberculeuse. Inhumée dans le cimetière des pauvres, Édith, plus tard, fit transférer les restes de sa fille au cimetière du Père Lachaise. À la fin de l'année 1933, Édith fait partie d'un trio de variétés qui se produit dans diverses casernes de l'armée jusqu'en avril 1934. À la caserne des Lilas, chez les gars de la coloniale, elle s'y serait amourachée d'un gars pas très grand, mais costaud, le calot sur la nuque débraillé, une cigarette collée aux lèvres, avec un beau visage et des yeux bleus clairs magnifiques, raconte-t-elle. Nous en aurions les traces dans cette chanson de 1936, « Mon amant de la coloniale ».
Il avait la barbe du front et descendant jusqu'au menton, une cicatrice en diagonale, des cheveux noirs, des yeux tout pâles, la peau brûlée par le soleil. J'en ai plus jamais vu de pareil. Oh, mon amant de la coloniale.
Une autre rencontre importante dans la vie d'Édith, Simone Berthaud, qu'elle appelle affectueusement « Momone ». Plus jeune de quelques années, ouvrière à petit salaire, au moment de la rencontre, séduite par la vie libre d'Édith, Simone abandonne tout pour la suivre et devenir celle qui quête après le spectacle. Elle sollicite et invite les gens à la générosité. Ensemble, elles fréquentent les quartiers malfamés. Simone raconte dans ses mémoires qu'elles ont côtoyé casseurs, souteneurs, arnaqueurs et receleurs. Y a-t-il eu prostitution? Les deux s'en défendent, mais tout laisse croire qu'elles se sont livrées à des activités qui en avaient toutes les apparences. Le tandem semble réaliser d'assez bonnes affaires dans les quartiers ouvriers le dimanche et dans les beaux quartiers durant la semaine. C'est dans l'un de ces beaux quartiers que le hasard, la chance ou la providence intervint. Édith, la tête rentrée dans les épaules, l'air malheureux pour attirer la sympathie, y poussait sa voix si particulière lorsqu'elle fut remarquée par un certain Louis Leplay. Reste.
On s'était quittés tous les deux, et brusquement, là, c'est curieux, on se retrouve face à face. On croyait ne plus se revoir, puisqu'après une scène un soir, je t'ai dit par que tout s'efface. Maintenant que tout est bien fini et que nos cœurs se sont repris, ne pensons plus qu'aux jolis gestes, causons en amis simplement. Mon ne part pas, rien qu'un moment. Allons, voyons, je t'en prie, reste.
Les circonstances de la rencontre diffèrent selon qui les raconte. Traversant le quartier où Édith poussait la note, Leplay lui aurait conseillé de ne pas casser sa voix, ce à quoi elle aurait répondu « Faut bien que je mange ». Leplay aurait alors eu l'aumône généreuse et aurait griffonné sur un morceau de journal l'adresse de son cabaret, l'invitant à s'y présenter pour une audition. Le Journeys, que les Français prononcent Jernis, rue Pierre Charon, dont Louis Leplay est le patron, est situé dans le sous-sol d'un hôtel au nom évocateur pour nous, le Château Frontenac, alors fréquenté par la bonne société bourgeoise de Paris. Édith s'y présente donc et, après avoir épuisé son répertoire de Damia à Tino Rossi, Leplay lui fait une proposition de 40 francs, plus ou moins 5 $, trois chansons par soir évoquant de préférence la misère de la rue. C'est un vendredi d'octobre 1935 qu'Édith est présentée au public du Chic Cabaret, qui l'adopte avec enthousiasme. Les mômes de la cloche.
Nous avons pourtant le cœur fort exigeant, mais personne n'en veut un bâton, et puis pour eux, qui que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche.
Ce titre lui allait si bien que bientôt tous l'appellent la môme. Fragile comme un petit oiseau, elle devient la môme Piaf. Cette rencontre avec Louis Le Play va changer la vie et la carrière de la jeune femme qui allait avoir 20 ans. De cette vie et de cette carrière, elle a tout à apprendre. On lui fait souvent remarquer à quel point elle détonne parmi le beau monde. Le sien est ailleurs. Ses relations douteuses la hantent toujours et il n'est pas rare qu'à la sortie du Journeys, elle aille finir la nuit dans les bars miteux de Pigalle où elle s'amuse. Au Journeys, elle rencontre un écrivain-poète ami de Le Play, Jacques Bourgeat, dont l'influence sur l'évolution intellectuelle et culturelle de la môme est marquant. Un autre client et ami de Le Play, propriétaire de la toute nouvelle station Radio Cité, présente la chanteuse à son directeur de la programmation, un certain Jacques Canetti, qui reçoit la môme à son émission, la faisant ainsi connaître à un plus large public qui s'enthousiasme et la redemande. Les journaux parlent d'un phénomène. À peine 2 mois après son entrée aux Journeys et la rencontre avec Jacques Canetti, la môme enregistre un premier disque, Les mômes de la cloche, et une chanson qu'elle aurait apprise par cœur en entendant une autre chanteuse la répéter chez un éditeur de musique et qu'elle ajoute à son répertoire, L'étranger.
Il avait un air très doux, des yeux rêveurs un peu fous, aux lueurs étranges. Comme bien des gars du Nord, dans les cheveux un peu d'or, un sourire d'ange. J'allais passer sans le voir, mais quand il m'a dit bonsoir, d'une voix chantante, j'ai compris que ce soir-là, malgré la pluie et le froid, je serais contente. Il avait un regard très doux, il venait de je ne sais où. D'où viens-tu? Quel est ton nom? Le navire et ma maison, la mer, mon village. Mon nom nul ne le saura, je suis simplement un gars ardent à l'ouvrage. Ici j'ai le cœur trop lourd, vends-moi donc un peu d'amour, j'ai soif de caresses. Et moi, fille au cœur blasé, j'ai senti sous ses baisers une tendre ivresse. Il avait un regard très doux, il venait de je ne sais où.
Le répertoire de Piaf sera fait en grande partie de ces histoires de rencontres entre des jeunes filles qui s'attachent à des garçons qui rêvent d'ailleurs. Des histoires qui finissent mal. Il y avait du soleil.
Des musiques, des pianos mécaniques, des manèges électriques. Un jour à la fête de Saint-Cloud, dans un cirque, je vois un grand type avec toute une équipe, pan l'œuf et pan la fibre. Quel assistème ou château, tout autour on se marrait. Et comme j'étais tout près, il m'a offert du nougat, du survin, du premier coup. On était deux copains. Il y avait du soleil ce jour-là. Je vois tout à fait loin. la tête. Il riait même sortant de la fête. Un petit porto de son Wabeco. Demain, on sort vers à coco. Je voulais pas tomber dans ses bras, oui, mais voilà.
L'année 1936 s'annonçait prometteuse pour la jeune recrue du Journeys. Un premier disque en janvier, un gala de bienfaisance au Cirque Medrano en février, nouvelle séance d'enregistrement en mars, la rencontre chez un éditeur de musique de Raymond Assot, un parolier de talent qui va devenir son Pygmalion quelques années plus tard. Le ciel trop bleu de ce printemps allait bientôt s'assombrir. Le 7 avril 1936, la môme Piaf se retrouve brutalement à la une des journaux. Son protecteur, celui qui l'avait tiré de la rue pour lui offrir la scène de son cabaret, Louis Leplay, celui qu'elle appelle affectueusement « papa », a été assassiné la veille dans son appartement. Les circonstances entourant ce meurtre n'ont jamais été élucidées, mais pour un temps, on laissait planer des doutes sur la jeune chanteuse dont les mauvaises fréquentations furent révélées à tous. De son témoignage, Piaf raconte dans ses souvenirs qu'elle avait rendez-vous avec Leplay à 10 heures pour parler de carrière. C'est un policier qui l'aurait accueilli pour lui annoncer la nouvelle du meurtre. Dans les heures qui ont suivi et pendant quelques jours, la chanteuse, considérée comme une intime de Louis Leplay, est interrogée par les enquêteurs soucieux de connaître ses relations avec l'univers glauque des bas-quartiers. Libérée, alors que la meute des journalistes l'assaille, elle s'effondre. Elle supplie de la laisser tranquille. Dans cette affaire, les suspects sont nombreux sans qu'aucun n'ait pu être accusé. Les élections législatives du 26 avril et 3 mai suivants ont permis de détourner l'attention et l'affaire Leplay est rapidement passée de la une aux faits divers avant de disparaître complètement de l'actualité. Robert Belleret, le biographe, constate à regret que le dossier de cette affaire est introuvable aux archives de la police nationale tout comme aux archives judiciaires de la ville de Paris. Avec l'assassinat de Louis Leplay, c'en est fait du Journeys, mais Jacques Canetti, Jacques Bourgeat et l'accordéoniste Robert Juel ne l'abandonnent pas et lui trouvent quelques engagements. Au début de 1937, désireux de donner un sens à sa carrière, un peu échevelée, elle contacte Raymond Assot, qui lui avait déjà proposé quelques titres, et elle lui demande de s'occuper d'elle, ce à quoi Assot aurait répondu « Il y a plus d'un an que je t'attends. » Si Leplay a sorti Edith de la rue pour l'amener sous les projecteurs du Journeys et en faire la môme Piaf, Raymond Assot va façonner la môme pour en faire Edith Piaf. Il devra tout lui apprendre, du maintien à la tenue. Il corrige son vocabulaire, modère sa consommation et lui impose un répertoire avec un tel succès qu'en mars 1937, il réussit le coup de maître d'inscrire sa protégée au programme de l'ABC, la plus prestigieuse salle de music hall de l'époque à Paris, où chante en vedette Marie Dubas, dont le talent et la présence inspirent Edith. Vêtue de la robe noire qui ne la quittera plus, elle s'avance sur quelques mesures de la chanson « Les mômes de la cloche » que tous attendent, mais elle va attaquer à l'étonnement général, avec une autre composition de Raymond Assot, un texte subtil et mélancolique. Conquis, les spectateurs lui réservent une ovation pour « Un jeune homme chantait ».
Sur la route, la grande route, un jeune homme.
Sources et documentation Robert Belleret, Piaf, un mythe français. Simone Berthaud, Piaf. Edith Piaf, au bal de la chance. Prise de son, montage et mise en onde Yannick Caron. Recherche, choix musical, texte et narration Yves Houd.
Et des rêves pleins le cœur. Un jeune homme.
route, la grande route, l'un vers l'autre, ils ont couru. Dans ses bras, il l'a tenue, il a dit que tu me plais. Dans ses bras, il l'a tenue, elle a dit je t'espérais. Un jeune homme chantait. A défait son corsage, puis a dit je suis heureux. Il a défait son corsage, elle a dit toujours nous deux. Tandis qu'au loin sur la route, un jeune homme va chantant sur le bord de la grande route, une fleur meurt doucement. Un jeune homme chantait, ah, une fille pleurait, ah, ah, ah.